Chers frères et sœurs, je vais vous proposer d'abord un petit exercice de mémoire. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, déclare Jésus. Mais c'était l'évangile de dimanche dernier. Alors rappelez-vous, Jésus à la synagogue de Nazareth, et il venait de proclamer le passage du prophète Isaïe. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. En un mot, un Dieu proche, proche de nous, surtout de ceux que la vie a blessés, les captifs, les aveugles, les opprimés, les pauvres, dans tous les sens de ces mots, surtout et avant tout au plan moral et spirituel, parce qu'il y a bien des manières d'être captif, aveugle, opprimé. Et Jésus de préciser, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Sous-entendu, ici et maintenant, plus précisément, à travers ma parole et ma présence. Et tout à coup, ce ne sont plus seulement des versets du prophète Isaïe, des versets bibliques, lointains ou proche-orientaux, mais tout à coup, une parole de Dieu qui rejoint les auditeurs, ici et maintenant, avec son poids de vérité, de solennité, d'efficacité. Ce qui a surtout retenu mon attention aujourd'hui, c'est la réaction des auditeurs et auditrices, devrait-on dire aujourd'hui, encore que comme c'est un propos polémique, peut-être qu'on peut le cantonner plutôt à la partie masculine de l'auditoire. Les hommes ont été beaucoup plus polémiques à l'endroit de Jésus que les femmes. C'était surtout les docteurs de la loi. Dans un premier moment, tous dans la synagogue étaient émerveillés. Saint Luc dit qu'il lui rendait témoignage après avoir entendu ces paroles de grâce. Attention, non pas que c'était des propos gracieux, jolis et émouvants, il parle si bien. Non, c'est parce que c'était les paroles de la grâce, le don gratuit de Dieu pour tous. Un amour qui s'approche, qui touche, qui guérit, qui réconforte et console. Une parole qui fait ce qu'elle dit, qui est performative, disent les professeurs. Et puis, le propos s'infléchit. C'est une seconde étape, même si tout cela est ramassé dans notre passage, en quelques mots. Tout en lui rendant témoignage, il se demande, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture, mais n'est-ce pas là le fils de Joseph? On le connaît bien, très bien, alors. N'est-ce pas un peu trop ce qu'il vient de dire? Un peu trop fort, un peu trop grand, peut-être un peu prétentieux? N'oublions pas que Jésus est au tout début de son ministère. Il n'a pas encore réuni des disciples. On a entendu dire qu'il avait fait quelques miracles à Capharnaüm, mais c'est tout. L'action de Dieu promettant le salut à travers ce Nazaréen, le fils du charpentier du village voisin. En somme, l'Évangile, comme le prophète Isaïe, tout ça est très beau et intéressant, vu de loin. Mais quand on se met à l'interroger de plus près, il arrive que l'Évangile déroute ou nous paraisse trop grand, trop fort, voire scandaleux, et c'est le cas ici. De loin, c'est intéressant, mais de près, c'est tellement fort que ou bien j'adhère par la foi, ou bien je n'en veux pas. Eh bien, chers frères et sœurs, il en va un peu de même pour les sacrements, qui sont l'humanité de Jésus prolongée au milieu de nous et pour nous. Un peu d'eau sur le front d'un enfant au baptême, et c'est la vie de Dieu qui se répand en son âme, elle prépare à la vie éternelle dès sa vie d'ici-bas. Oui, le baptême, c'est intéressant de loin, mais de près, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, c'est tellement grand que nous devrions nous mettre à genoux et rendre grâce à Dieu et ne pas hésiter à faire baptiser nos enfants. Ce qui n'est plus le cas, vous le savez bien. Et l'Eucharistie, un peu de pain et de vin, et voilà que Jésus nous dit que c'est son corps et son sang, sa vie pour nous, au quotidien, comme le pain que nous mangeons chaque jour et qui permet de continuer à vivre. De loin, on le sait bien, mais de près, si c'est vrai, comment se fait-il que nous ne soyons pas tellement nombreux qu'il faudrait agrandir nos églises plutôt que les fermer ou les transformer comme on commence à le faire dans certains pays encore plus déchristianisés que le nôtre. Et puis le sacrement des malades, un peu d'huile sur le front d'un malade ou d'un mourant, et c'est le consolateur qui est là et qui prend par la main celui ou celle à qui je viens de le conférer. Si c'est vrai, concrètement vrai, alors notre foi est magnifique. L'Église nous propose des paroles et des gestes pour nous accompagner de la naissance à la mort. Et vous voyez que tout se joue dans notre accueil ou non de la portée de ce que l'Évangile et l'Église nous disent, nous montrent, nous donnent de vivre. Alors Jésus, en bon catéchète, va s'efforcer de les aider, tout en leur précisant qu'aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. C'est bien pour ça qu'étant de Fribourg, j'ai beaucoup prêché à l'étranger et je continue de le faire, mais on peut quand même essayer. Jésus de leur donner en exemple la veuve accueillant le prophète Élie et partageant avec lui le peu d'huile et de farine qui lui reste, de quoi confectionner une petite galette. C'est magnifique, n'est-ce pas? Oui, mais cette femme venait de Sidon, c'est-à-dire du Liban. Et hier comme aujourd'hui, donner en exemple en Israël quelqu'un des pays arabes voisins, ça ne passait pas si bien que ça. Et Jésus continue avec l'exemple de la foi de Naaman, ce lépreux purifié de sa lèpre. C'est très beau, oui, mais c'était un Syrien, précise Jésus, autre pays païen et avec qui les Juifs étaient en délicatesse. Vous pouvez vous souvenir aussi du centurion romain de Capharnaüm, un militaire et romain, donc un étranger, et Jésus dit que nulle part en Israël il n'a rencontré une telle foi. Ce n'est pas vraiment un compliment pour eux. On voit que lorsque Dieu se révèle, il ne laisse pas notre monde et les personnes en l'état. Sa parole est une parole de vie et la vie bouscule et dérange. Les parents le savent quand ils accueillent un bébé. Quand Dieu se révèle, il fait tomber les murs et les barrières et craquer l'arthrose que nous avons souvent dans notre cœur et dans notre tête. Oui, il y a de la grandeur et de la foi, même chez ceux qui sont loin de nos églises. Jésus peut même les donner en exemple et nous les donner en exemple. Ça nous bouscule, ça nous décoiffe, mais finalement, ça peut nous faire du bien. Alors en conclusion, comme Dieu est le Créateur de tous, il est le Père de tous ses enfants et la vie de chacun lui importe au plus haut point. Et si nous voulons être ses disciples, nous devons essayer de porter en nous un horizon universel. À la fois tenir à ces gestes de l'Église dont je parlais, qui prolongent l'humanité de Jésus au milieu de nous, et puis cet horizon universel avec des antennes pour repérer tout ce qui est beau et vrai, grand et authentique dans la vie de notre prochain. Vous vous souvenez que c'était le but que s'était donné le frère Charles de Foucault, être un frère universel. Nous vivons un temps de crise à tous les niveaux de notre société et aussi de l'Église. Comme c'est inquiétant, le réflexe peut être de se renfermer et de former un ghetto. Un ghetto catholique, mais un ghetto quand même. Or, précisément, Jésus nous demande de nous appuyer sur lui pour montrer par notre vie que l'Évangile vécu au quotidien agrandit la vie, agrandit l'esprit et ouvre le cœur plutôt que le contraire. Vu de loin, c'est intéressant, mais vu de près, est-ce bien vrai? Essayons d'y croire et notre vie changera, celle aussi de celles et ceux que nous côtoyons qui se mettront à envier les croyants, ce qui n'est pas toujours le cas.